Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Le 31 mars 1822, le physicien Augustin Fresnel achève de publier ses mémoires sur la théorie ondulatoire de la lumière. Ses expériences ont permis de trancher un débat qui agitait la communauté scientifique depuis près de deux siècles. Oui, il faut bien penser la lumière comme une onde ou une vibration, pourrait-on dire. Cette découverte va s'avérer très féconde pour la recherche optique. Depuis, nos connaissances n'ont cessé de progresser, mais nous allons revenir sur ce moment important afin de bien comprendre pourquoi il représente une avancée majeure dans l'histoire des sciences. Je suis donc en compagnie de Serge Haroche, membre de l'Académie des sciences et prix Nobel de physique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour bien comprendre l'importance d'Augustin Fresnel, nous allons commencer par déjà poser ce débat entre deux théories, un débat qui remonte au XVIIe siècle. D'une part, les tenants de la théorie ondulatoire de la lumière, et puis d'autre part, ceux qui, au début, ont plutôt les faveurs de l'opinion des scientifiques, dirons-nous, les tenants de la théorie corpusculaire. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, en fait, il y a deux grands scientifiques qui sont à l'origine de cette discussion, enfin de ce débat. C'est Newton, d'une part, qui faisait l'hypothèse que la lumière était constituée de particules qui se propageaient en ligne droite et qui, lorsqu'elles rencontraient un obstacle ou une surface réfléchissante, s'infléchissaient, changeaient de direction, mais que c'était des rayons qui représentaient la propagation de ces particules. De l'autre côté, Huygens, qui est un physicien hollandais, mais qui a passé la plus grande partie de sa carrière scientifique en France, à l'Académie des sciences d'ailleurs, lui tenait l'hypothèse que la lumière était une onde, un peu comme les ondes acoustiques, comme le son, et que ces ondes se propageaient de place en place, correspondant à des vibrations dont les rayons étaient constitués par les normales au plan de vibration. Donc ces deux thèses se sont opposées pendant deux siècles, jusqu'au début du XIXe siècle. Newton, qui avait été plus célèbre, qui était plus connu par sa fameuse théorie de la gravitation, avait la faveur de la plupart des scientifiques. Et donc pendant tout le XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe, la théorie particulière, la théorie qu'on appelait la théorie de l'émission, le fait que la lumière était constituée de particules, a dominé et la théorie ondulatoire est restée un peu dans l'ombre.
Alors pourquoi n'arrivait-on pas à trancher cette question ?
Ben, on n'arrivait pas à le trancher parce que les expériences n'étaient pas assez précises. En particulier, on va s'apercevoir que la lumière est une onde, mais cette onde vibre à des fréquences extrêmement élevées qu'on a été incapable évidemment de mesurer. La longueur d'onde, c'est-à-dire la distance qui sépare deux crêtes de l'onde qui se propage, était extrêmement petite. Et les expériences qui permettent de mettre ça en évidence étaient des expériences délicates qu'on n'a pas pu faire avant le début du XIXe siècle. Il y avait un test qui aurait pu départager les deux théories. Suivant la théorie de Newton, lorsque la lumière pénètre dans un milieu matériel, par exemple dans de l'eau ou dans un milieu transparent comme du verre, elle devrait se propager plus vite dans le milieu que dans l'air. Alors que d'après la théorie de Huygens, c'était le contraire. Les ondes lumineuses doivent se propager moins vite dans un milieu que dans l'air. Et donc, il aurait fallu être capable de mesurer la vitesse de la lumière dans un milieu matériel. Et la technologie rendait ce type de mesure impossible jusqu'au XIXe siècle.
Alors, c'est sur ce terrain de l'expérience qu'Augustin Fresnel va se distinguer. Lui, qu'est-ce qui l'intéresse ? Quelles sont ses questions et quelles sont les expériences qu'il va mettre en œuvre pour y répondre ?
Bien, peut-être avant de parler de Fresnel, il faut citer un autre scientifique qui a joué un rôle important, c'est Thomas Young en Angleterre. Thomas Young était de quelques années plus âgé que Fresnel et il a fait des expériences décisives sur le caractère ondulatoire de la lumière dès le début du XIXe siècle. À partir de l'année 1800, il a montré que deux rayons lumineux pouvaient interférer, donner lieu à des franges brillantes et des franges sombres, et ce phénomène d'interférence ne peut s'expliquer que si on admet que la lumière est une onde. Les deux ondes se bâtissent si elles vibrent en phase, et elles se contrecarrent si l'une passe par un maximum, quand l'autre est à un minimum, à ce moment-là on a des franges sombre. Et Young avait observé ce phénomène dès l'année 1800, à une époque où Fresnel n'avait que 10 ou 12 ans. Donc Fresnel a abordé ce domaine de l'étude des ondes un peu plus tard, autour de la vingtaine. Il n'était pas au courant des travaux de Young. Apparemment, il ne parlait pas l'anglais. C'était l'époque des guerres napoléoniennes. Les relations entre la France et l'Angleterre étaient nulles. Et donc, il s'est intéressé à ce problème parce
en
que,
parallèle.
En parallèle et très rapidement parce qu'il critiquait la théorie de Newton. Il trouvait que la théorie de Newton faisait des hypothèses difficiles à expliquer parce que, en fait, on doit parler d'un autre phénomène important, c'est le phénomène des couleurs. Newton avait constaté que la lumière blanche, la lumière du soleil, est formée d'un spectre de couleurs s'étendant du rouge au bleu et il avait observé des phénomènes d'anneaux colorés lorsque la lumière traverse des lames minces. Et ces anneaux colorés, il avait essayé de les expliquer, alors qu'ils ne s'expliquent que par une théorie ondulatoire, il avait essayé de les expliquer par une théorie corpusculaire, et son explication n'était pas vraiment convaincante. Et c'est en partant de là que Fresnel a commencé à avoir des doutes sur la théorie corpusculaire, et qu'il s'est dit qu'il fallait faire des expériences pour essayer de voir ce qu'il en était. Et dès qu'il a commencé à faire ses expériences, il s'est rendu compte que lorsqu'il faisait passer la lumière au voisinage d'obstacles, par exemple, il regardait comment la lumière se propageait lorsqu'on bloquait une partie du front de la lumière par un écran opaque, il constatait qu'il y avait des franges et que ces franges prenaient des teintes colorées. Et c'est ces couleurs de franges qui l'ont intrigué et qu'il a commencé à essayer de faire des expériences de plus en plus précises pour comprendre la nature. Et au début, il a refait un certain nombre d'expériences que Young avait faites. Et d'après ce que l'on sait aujourd'hui, il les a faites indépendamment, sans savoir que Young avait déjà travaillé là-dessus. Mais ses expériences ont été plus précises, plus quantitatives. Il a pu mettre des chiffres plus précis sur les résultats des expériences. Il a pu établir un modèle mathématique qui permet de calculer l'intensité des franges, ce que Young n'avait pas fait. Et donc, il a mené plus loin les investigations, les recherches de Young. Il a également pu montrer que la lumière était une onde transversale, c'est-à-dire que la vibration se faisait dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation de la lumière, ce que Young n'avait pas mis en évidence. Et donc, il a été au départ de la compréhension de ce qu'on appelle la polarisation de la lumière, le fait que la lumière vibre dans un plan perpendiculaire à sa direction de propagation, dans une direction bien définie. Et ça a été une de ses contributions très importantes. Et il y a eu une série, il a fait progresser donc ses recherches, une série de mémoires qui ont été publiées à l'Académie des sciences, dont celui dont vous avez parlé, qui a été, je crois, le dernier mémoire important qu'il a publié sur ce sujet.
Il faut bien dire que c'est un homme très jeune qui réalise ses expériences et qui va les communiquer au plus haut niveau. Il suscite des doutes et il y a un épisode important qui se passe justement ici à l'Académie des sciences où il va parvenir à emporter l'adhésion.
Bon, ça fait partie un peu de la légende de Fresnel, mais on peut parler effectivement de cet épisode. La théorie des ondes, en fait, pour calculer comment la lumière se propage sous forme d'ondes, Fresnel a repris une vieille idée de Huygens, que depuis le 19e siècle on appelle le principe d'Huygens-Fresnel, qui consiste à calculer la propagation des ondes en admettant que sur chaque front d'onde, c'est comme si on avait des petites ondes, des petites sources secondaires qui émettent des ondelettes qui interfèrent vers l'avant, et l'onde qui se propage résulte de cette interférence successive des ondelettes qui se forment sur les différents plans de l'onde initiale. Et c'est en appliquant ce principe et en le rendant vraiment quantitatif à partir de formules mathématiques précises que Fresnel a calculé comment se formaient les ombres derrière un obstacle. Et il a constaté que derrière un obstacle, il y avait une partie de la lumière qui pouvait pénétrer dans l'ombre géométrique et qu'à l'extérieur de l'ombre géométrique, il y avait des franges qui, en lumière blanche, étaient colorées. Et il a calculé tout cela. Et il y a un cas qui est particulièrement simple, qui est celui de l'ombre d'un disque. Si vous interposez sur un faisceau lumineux de lumière parallèle un disque circulaire, eh bien, dans l'ombre géométrique, il va y avoir un point brillant au centre de l'ombre géométrique. Le calcul mathématique est très simple parce qu'il y a une grande symétrie dans le problème, mais intuitivement, on trouve ce résultat absurde, qu'il y ait de la lumière au milieu de l'ombre. C'est un résultat qui n'est pas intuitif. Et l'académicien Poisson, qui est un mathématicien célèbre, avait pris cette remarque comme étant la preuve que la théorie de Fresnel était absurde. Il a dit il devrait y avoir, d'après Fresnel, un point lumineux au centre de l'ombre. Or, comme c'est absurde, ça veut dire que cette théorie n'est pas valable. Et on dit que, je crois que c'était en 1818 ou 1819, Arago, qui était un collègue de Fresnel un peu plus âgé et qui l'encourageait dans ses recherches, a fait l'expérience devant l'Académie des sciences. Il a donc envoyé un rayon lumineux et regardé l'ombre que formait une petite bille ou un petit disque derrière. Et effectivement, au centre de l'ombre, il y a un point brillant qu'on appelle depuis le point de Poisson. Et c'était donc vraiment la preuve que la théorie de Fresnel était correcte. Je ne sais pas si c'est ça qui a emporté la décision, mais c'est ce que l'on dit en tout cas. Plusieurs années ont passé, il y a bien d'autres preuves que Fresnel avait raison, mais c'est effectivement une des preuves très simples que l'on peut donner.
Et quel est le fil rouge qui conduisait ces expériences les unes après les autres? Est-ce qu'il a été vers de plus en plus de complexité en partant d'une lumière simple, monochromatique, polarisée, vers des ondes plus complexes?
Au départ, il travaillait avec de la lumière blanche et donc il y avait des couleurs différentes, les différentes franges de couleurs différentes se produisaient à des endroits différents, donc ça rendait l'explication et l'interprétation difficile. Donc effectivement, il a rapidement travaillé en lumière monochromatique en interposant un verre de vitrail coloré. Il a travaillé avec de la lumière rouge, par exemple. À ce moment-là, les franges étaient plus nettes. En ce qui concerne la polarisation, il a également compris qu'on pouvait polariser de la lumière en la faisant traverser des cristaux biréfringents. Donc ça m'amène à parler d'un autre problème qui est celui de la biréfringence, justement, et qui est également un problème qui remonte au XVIIe siècle. À l'époque de Huygens, des commerçants qui revenaient d'Islande ont rapporté des cristaux, qu'on appelle des cristaux de spath, c'est de la calcite. Ce sont des cristaux transparents, mais qui ont la propriété que lorsqu'on les pose sur une feuille de papier et qu'on regarde, par exemple, des lettres qui sont écrites derrière, on les voit en double. C'est-à-dire qu'un objet donne deux images. C'est-à-dire que lorsque la lumière pénètre dans ces cristaux, un rayon lumineux correspond à deux rayons transmis. Et on a découvert, dès le début du XIXe siècle, que ces rayons transmis étaient polarisés dans des directions différentes. Et Fresnel a étudié ce problème en détail. Il a compris que cela provenait du fait que la lumière se propager à des vitesses différentes dans le cristal suivant sa direction de polarisation par rapport à ce qu'on appelle l'axe du cristal. Et il a établi toutes les formules qui permettent de comprendre ce phénomène de biréfringence et de polarisation de la lumière. Et donc ça, c'était des expériences de plus en plus compliquées qui sont assez faciles à faire qualitativement. Le fait qu'il y ait deux images à partir d'un objet, c'est facile à faire qualitativement, mais comprendre le phénomène, l'analyser, calculer dans quelle direction la lumière va se propager, ça, c'était beaucoup plus compliqué et ça fait partie vraiment du génie de Fresnel, de sa capacité extraordinaire à la fois à faire des expériences de plus en plus raffinées et à les interpréter. Fresnel a été à la fois un grand expérimentateur et un grand théoricien. Alors qu'on peut dire, par exemple, que Jung a été un expérimentateur génial, mais il a poussé moins loin la théorie que Fresnel et c'est pour ça qu'on peut dire, je pense, que c'est vraiment Fresnel qui a assis la théorie de la lumière sur des bases très solides. C'est la théorie ondulatoire de la lumière sur des bases très solides.
Et tout cela grâce aux mathématiques qui jouent vraiment un rôle très important qu'il fera lui-même évoluer. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette affirmation?
Oui, il a utilisé des outils mathématiques. En tout cas, il a utilisé l'ébauche d'outils mathématiques qui ont ensuite servi dans d'autres domaines de la physique. En fait, ce qu'il a montré, c'est qu'il y a un paramètre essentiel qui définit une onde, c'est sa phase, ce qu'on appelle la phase de l'onde. C'est lié aux instants où l'onde passe par un maximum. On pouvait avoir deux ondes qui ont la même fréquence, donc qui vont avoir la même longueur d'onde, mais qui vont se contrecarrer plus ou moins parce qu'elles passent à des maximums à des instants différents. Et ce paramètre qui décrit les instants où l'onde passe par un maximum, c'est ce qu'on appelle sa phase. Et Fresnel a commencé à décrire une onde monochromatique comme un vecteur qui tourne dans un plan. Et deux ondes de phase différentes sont des ondes qui tournent à la même vitesse, mais qui forment un angle l'une avec l'autre, qui atteignent un point de phase différent à un instant donné. Et donc, en introduisant l'onde comme à la fois quelque chose qui a une amplitude et une phase, il a en fait introduit ce qu'on appelle les nombres complexes en physique. Parce qu'un nombre complexe est un nombre qui est décrit par deux paramètres, son amplitude et sa phase, justement. Et ce que Fresnel a fait pour décrire ses expériences d'interférence, c'est de dire que ce qu'il a compris, c'est que deux ondes qui se superposent vont interférer, créant une onde somme dont l'amplitude et la phase vont dépendre de l'amplitude et de la phase des deux ondes qui le constituent. Et ces ondes se combinent comme on combine des vecteurs dans un plan. Et c'est la règle d'addition des nombres complexes. Et donc, il a introduit les nombres complexes en physique. Et les nombres complexes n'ont jamais quitté la physique. 100 ans après Fresnel, lorsque la physique quantique s'est développée, eh bien, la physique quantique décrit la propagation d'ondes, qui ne sont pas des ondes lumineuses, ce sont ce qu'on appelle des ondes de probabilité, mais ces ondes se combinent, se superposent, suivant leur phase, de façon analogue aux ondes de Fresnel. Autrement dit, Fresnel a développé un outil mathématique qui, par la suite, a été extrêmement fécond pour comprendre des phénomènes d'origine différente, des phénomènes différents. Et c'est assez intéressant, et il y a beaucoup de coïncidences comme ça en physique qui sont intéressantes. En fait, la coïncidence qu'on peut faire, c'est que Fresnel est né dans un village qui s'appelle Breuil, dont les terres étaient la propriété de la famille des ducs et des princes de Breuil. Et 100 ans après Fresnel, Louis de Breuil, qui a été le découvreur des ondes de matière, a découvert des ondes qui ne sont pas des ondes lumineuses, mais qui obéissent à des lois de propagation très voisines de celles que Fresnel avait mises en évidence 100 ans avant.
Alors, Fresnel va mourir assez jeune, à 39 ans. Oui. Quels champs de recherche vont profiter de ses travaux et vont se développer par la suite ?
Donc, il a montré que la lumière était constituée d'ondes, mais la nature de cette onde était inconnue. On ne savait pas des ondes de quoi. Et ce n'est que 20 à 30 ans après la mort de Fresnel que Maxwell a montré que la lumière était en fait une onde électromagnétique, de la même nature que les ondes constituées de champs électriques et de champs magnétiques qui se propagent dans l'espace. Les premiers pionniers de l'électromagnétisme, ça avait été des gens comme Ampère et Faraday. Ampère était en fait un collègue de Fresnel. Il était à l'Académie des sciences en même temps que Fresnel. Il a travaillé avec Fresnel. Et Maxwell a rassemblé en fait les travaux de Maxwell, les travaux d'Ampère et de Faraday, pour en faire les ondes électromagnétiques. Et il a reconnu que ces ondes électromagnétiques étaient les mêmes que celles que Fresnel avait découvertes en parlant de la lumière. Donc on peut dire que les travaux de Fresnel ont été confirmés 30 ans après. Ils ont été également confirmés par le fait que lorsqu'on a pu mesurer la vitesse de la lumière dans un milieu matériel, ce qui a été fait par des physiciens français, Fizeau et Foucault, au milieu du 19e siècle, ils ont montré que la lumière se propageait effectivement moins vite dans un milieu transparent que dans l'air, ce qui règle définitivement le débat entre Newton et Huygens. C'est Huygens qui avait raison. Et on n'avait pas besoin de ça à cette époque-là, parce que Fresnel avait déjà bien établi cette théorie ondulatoire, mais ça a confirmé ce que Fresnel avait dit. Et de façon plus générale, on peut dire aussi que Fresnel a été l'initiateur de toute une école d'opticiens et d'optiques en France qui continue à être féconde jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un très grand nombre d'opticiens qui ont raffiné les méthodes de Fresnel, qui ont raffiné la façon de polariser la lumière. Ce qu'on on n'a pas dit que tout à l'heure que Fresnel avait découvert ce qu'on appelle la polarisation circulaire de la lumière, le fait qu'on peut rendre de la lumière polarisée de façon telle que le vecteur d'onde tourne au fur et à mesure que la lumière se propage, suivant un mouvement hélicoïdal. Et ce mouvement hélicoïdal donne de la rotation, une quantité de rotation qui peut être transmise à de la matière. C'est-à-dire que lorsqu'un faisceau de lumière polarisé circulairement rencontre de la matière, il peut faire tourner la matière. Et c'est à l'origine de ce qu'on appelle le pompage optique, qui a été découvert par Kastler et Brossel au milieu des années 1950. Et on peut dire que c'est la suite des travaux de Fresnel, en quelque sorte. Cette capacité d'utiliser la lumière, non seulement comme sonde de la matière, ce qu'on appelle la spectroscopie, mais également comme moyen de manipuler de la matière en lui transmettant du moment angulaire, en lui transmettant des mouvements de rotation, ou plus récemment en lui transmettant de l'impulsion, ce qui est fait dans les expériences où on utilise la lumière pour refroidir la matière. Donc on peut dire que tout ça, c'est en germe dans les travaux de Fresnel.
Vous-même, vous avez utilisé le pompage optique ?
Oui, j'ai commencé ma thèse sur le pompage optique et ensuite j'ai été amené à faire d'autres choses, mais l'interaction entre la matière et le rayonnement est vraiment à la base de tous les travaux que j'ai pu faire, moi et les collègues, mes collègues qui travaillent dans ce domaine. C'est effectivement, Fresnel est dans une certaine mesure à l'origine de ça. Il y a eu une grande avancée qui a été l'avancée de la physique quantique, parce que pour comprendre vraiment ce qui se passe au niveau microscopique, il faut quantifier, décrire de façon quantique la lumière et la matière. Et évidemment, Fresnel n'avait pas fait ça, mais il a mis cette idée en germe. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'on a parlé de Fresnel comme théoricien, comme physicien fondamentaliste, mais il a également fait de la physique appliquée. Il était en fait ingénieur des ponts et chaussées. Et une grande partie de sa vie, brève, vous avez remarqué qu'il est mort jeune, il l'a consacré à mettre au point ce qu'on appelle les lentilles de Fresnel, qui sont des lentilles qui concentrent la lumière de façon beaucoup plus puissante que les lentilles traditionnelles et qui ont été adoptées dans la construction des phares au XIXe siècle. Et les lentilles de Fresnel ont été pendant plus de 100 ans, jusque dans les années 50 du siècle dernier, utilisées dans les phares partout dans le monde. Et on peut dire que par cette invention pratique, il a sauvé la vie et l'état de marins. Il a vraiment fait de la physique appliquée. Et il est une illustration du fait que c'est artificiel de séparer la physique fondamentale et la physique appliquée. En fait, les lentilles de Fresnel sont bâties sur des propriétés de diffraction de la lumière que Fresnel avait d'abord étudiées sur le plan théorique, sur le plan fondamental, avant de les appliquer dans des dispositifs pratiques.
Aujourd'hui, est-ce qu'il faut apporter certaines nuances aux théories de Fresnel? Parce que bien sûr, nos connaissances sur la lumière ont évolué. Je pense notamment à l'apport d'Einstein ou cette idée de la lumière comme onde. Oui, c'est vrai, mais il faut apporter quelques nuances.
Bon, si on veut faire vraiment un raccourci, au début du XXe siècle, Einstein a montré, à la suite d'ailleurs des travaux de Planck, que la lumière avait également un caractère discret, également un caractère de particule, et que en fait, la théorie quantique marie ces deux aspects en décrivant exprimant ce qu'on appelle le dualisme entre l'aspect onde et l'aspect corpuscule. Donc, ce qu'Einstein a essayé de faire, c'est de réconcilier, entre guillemets, Huygens et Newton. Néanmoins, tout ce que Fresnel a fait reste valable. Dans le domaine classique, dans le domaine de la propagation des ondes électromagnétiques qui contiennent beaucoup de photons, à ce moment-là, l'approximation classique de Fresnel est parfaitement valable et n'est pas remise en cause. Elle n'est pas suffisante pour décrire les phénomènes au niveau microscopique d'interaction des atomes avec la matière. À ce moment-là, il faut faire appel effectivement à ce que Einstein et les découvreurs de la physique quantique ont apporté entre les années 1900 et 1925.
Et vous, dans votre panthéon personnel des grands scientifiques, quelle place occupe Augustin Fresnel?
Il occupe une place très importante, je pense, en ce qui concerne les physiciens français. Je pense qu'au XIXe siècle, il y a deux noms qui émergent, c'est Fresnel et Ampère, qui ont joué un rôle essentiel pour la théorie de la lumière et la théorie de l'électromagnétisme. Donc, c'est vraiment des personnages qui sont au premier plan. Puisqu'on est à l'Académie des sciences, à l'Institut et à l'Académie des sciences, je voudrais rappeler que l'époque de Fresnel était vraiment un âge d'or pour la science française. C'est l'époque où, à l'Académie, il y avait Ampère et Fresnel dont on a parlé. Il y avait Arago, qui était également un grand physicien et qui a également fait de la politique à son époque. Il y avait des gens comme Laplace, il y avait des gens comme Biot et Savard, qui étaient des professeurs au Collège de France, qui ont joué un rôle important dans la théorie de l'électromagnétisme. Et des mathématiciens, on a parlé de Poisson tout à l'heure, il y a également Fourier, qui a inventé ce qu'on appelle les séries, les intégrales de Fourier, qui est une façon mathématique de décrire un phénomène périodique, et donc ça s'applique également à la description des ondes. Donc ça a été vraiment une époque foisonnante pour la recherche en France. Je voudrais également insister, peut-être on peut également insister sur le fait que c'était une époque où il y avait une grande compétition entre la France et l'Angleterre. Depuis le XVIIe siècle, Newton, c'était la Royal Society en Angleterre, Huygens, c'était l'Académie des sciences à Paris. Au XIXe siècle, il y avait Young et Fresnel qui travaillaient sur la lumière, il y avait Ampère et Faraday qui travaillaient sur l'électromagnétisme. Et ce qui est remarquable, c'est que malgré la guerre qui a séparé la France et l'Angleterre, les guerres de la Révolution et les guerres napoléoniennes, les savants en France et en Angleterre ont travaillé ensemble, ont coopéré, ont échangé. Il y a eu une époque où je disais tout à l'heure que Fresnel n'était pas au courant des travaux de Young, mais dès la Restauration, les contacts ont repris entre la France et l'Angleterre. Pendant toutes les années 1820-1830, il y a eu une collaboration très fructueuse, non dénuée de compétition, bien sûr, entre ces deux pays. Je pense qu'il y a à l'Académie, dans les archives de l'Académie des sciences ici, une partie de la correspondance entre Faraday et Ampère qui est extrêmement intéressante. Je sais que Fresnel a également échangé avec Young, et c'est une correspondance qui est très intéressante à lire.
Eh bien, un grand merci Serge Haroche de nous avoir plonger dans ce grand moment de la science. Je rappelle un livre que vous avez écrit sur justement l'histoire de nos connaissances sur la lumière. Ça s'appelle « La lumière révélée, de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique » et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci, à bientôt.
Merci.